Vox, la voix dans tous ses états. Petit laboratoire philosophique.
Chapitre 1, parleur, parleuse.
J'adore parler, m'exprimer.
J'aime parler de tout et de rien.
Les sujets m'intéressent, la politique, la musique, les animés, les séries, ils débattent de tout.
Elle dit que sa voix sert à communiquer, à parler, à raconter des choses.
J'aime parler de mes pensées, de mes idées, de mes projets, des choses qui me passionnent avec les personnes en qui j'ai confiance.
Et j'aime beaucoup parler de foot.
Ce qu'elle aime quand elle va dans un stade, c'est l'ambiance que mettent les supporters.
J'aime parler de tout et écouter les autres.
J'aime les parties vocales le soir sur la play.
Elle aime le rap, c'est un moyen de s'exprimer et se faire entendre pour elle.
Je respecte petit ou grand, je cartouche petit ou grand. Sur la lumière, je veux que du gras. Quand le pro league, il écrit.
On me reproche souvent de parler trop vite, d'avoir des tics de langage et de ne pas assez articuler.
Je suis une personne qui aime beaucoup parler, malgré une grande peur du regard des autres.
Elle peut ne pas décrocher un mot à cause de la peur ou du stress.
Moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup en public et j'ai une voix assez grave.
J'aime parler car ça m'aide à m'exprimer.
Ma voix est née un peu grâce à mon père qui parle souvent. Et pour que je puisse me joindre à lui, il me fallait apprendre à parler, à dire ce que je ressens, à créer des sujets de discussion.
J'aime parler car ça me permet de me vider et d'exprimer mes opinions.
Mais j'aime aussi entendre surtout ma famille et mes amis.
J'aime parler de plein de choses, mais
je peux rire ou pleurer, cela dépend
de qui je parle. Mais parfois je parle.
Je déteste parler devant les gens que je ne connais pas, mais j'adore le faire avec mes amis.
Je parle pour mon métier, mais il faut aussi que je sache me taire, au moment opportun, pour faire émerger la parole des autres.
Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve à Châtelet pour un micro trottoir. Alors
je ne comprends pas pourquoi tout le monde dit que wesh est un mot familier ou de racaille ou de bandit alors que c'est un mot normal.
Comment utiliser la confiance? Pour utiliser la confiance, il faut de temps en temps laisser les gens sortir après 18h.
Le mot star. Ne pas devenir trop orgueilleux à utiliser en cas de grand succès.
Le mode d'emploi du mot violet, c'est faut mélanger du rouge et du bleu.
Je m'engage à porter plus d'importance au mot violet.
Schtroumpfé, cela exprime le fait d'éternuer très bruyamment, verbe schtroumpfé.
La musique est une façon artistique pour s'exprimer, cela passe par le son ainsi que par la voix.
Fougère, danger pour l'homme, ne pas consommer sauf en cas de survie.
Le mot « waouh » à utiliser dans ces situations. On nous offre un cadeau, on nous montre une tenue, coiffure, maquillage affreux, on nous rend notre note de dictée avec 1,5 point en moins à cause d'un camarade situé à notre gauche. On est très fatigué. Il vaut mieux l'utiliser au moins 12 fois par jour. Chapitre 2, labo philo.
Tu dis à peu près la même chose.
Et c'était quoi ce que vous avez dit?
Non.
Quoi? On a dit que pour être compris, parler c'était la plus simple des manières, mais que ça suffisait pas parce qu'il y en a qui pouvaient ne pas comprendre et être fermés sur une idée.
Donc là on monte, voilà.
Là ça enregistre.
Vox, la voix dans tous ses états. Petit laboratoire philosophique.
Est-ce que quand il y a de la nouveauté, il faut avoir peur de cette nouveauté ou faut la prendre avec... t'es content de qu'elle soit là? Enfin, je sais pas...
La prendre comme une opportunité?
Ouais. Il y a certaines nouveautés qui font peur et il y en a d'autres qui sont plus à prendre avec de la joie. Ça dépend de la nouvelle que t'accueilles, enfin, je sais pas.
Non, il faut pas avoir peur de la nouveauté parce que la nouveauté, c'est comme une étape d'évolution.
Et du coup, quand on évolue, bah, c'est bien.
On peut avoir peur de du changement. C'est le changement.
Pour moi, on peut avoir peur du changement, mais il faut passer par-dessus pour évoluer dans la vie.
Pour moi, la nouveauté, c'est quelque chose de positif. Je préfère avoir quelque chose de nouveau ou une nouvelle personne que perdre une personne ou perdre quelque chose.
Par principe, moi, tout changement, ça me fait peur. Mais je suis d'accord avec Baptiste et Amy que c'est important d'ensuite accueillir la nouveauté, mais qui ne serait pas de la peur, juste une réaction en disant « cette nouveauté-là ne me plaît pas » et peut-être que du coup, je vais agir pour changer, orienter... cette nouvelle chose dans une autre direction.
Alors, peut-être qu'on a peut-être envie de rester dans sa zone de confort, mais c'est bien d'accepter la nouveauté, que ce soit en bien ou en mal, parce qu'au pire des cas, si c'est dans le mal, ça nous servira de leçon.
Une habitude, pour moi, c'est comme une routine. C'est ce que tu fais tout au long de la journée ou avec les personnes que tu côtoies. Mais ce n'est pas forcément ce que tu aimes faire.
Pour moi, les habitudes, ça nous définit parce que ça montre qui on est et qu'est-ce qu'on veut devenir.
Il y a certaines habitudes où on est un petit peu obligé, comme se lever tous les jours à la même heure. Donc ça ne nous définit pas forcément. Mais il y en a d'autres qu'on choisit et ça, je pense que ça nous définit plus.
Une habitude, ça peut changer ou évoluer en fonction de la prise de maturité ou de la grandeur des choses.
Moi, je dis nos habitudes, elles nous définissent parce qu'en fonction de ce qu'on va faire en rentrant chez nous après l'école ou de la façon dont on va agir avec les gens, ça va nous définir et montrer qui on est vraiment.
Je pense que les habitudes, ça ne nous définit pas parce que tous les jours, on va à l'école, mais vu qu'il y a des règles, on ne peut pas... Ça ne montre pas forcément notre personnalité.
Du coup, ce que Lily vient de dire, là, ça me fait réfléchir au fait que vous, effectivement, en tant qu'ado, vous avez moins de liberté pour choisir certaines habitudes. Les adultes, justement, eux aussi, ils ont des contraintes, mais quelque part, c'est des contraintes qu'ils ont davantage choisies, comme liées à l'activité professionnelle. Et c'est pour ça que, quelque part, on a plus de responsabilités dans le choix de nos habitudes.
Chapitre 3.
Rien qu'un souvenir.
Je me suis réveillée à 6h50, je suis restée dans mon lit jusqu'à la sonnerie.
J'ai éteint mon réveil, placé à ma droite. Il avait sonné trois fois.
Comme tous les matins, depuis que j'ai déménagé. J'en passe jusqu'à mon téléphone pour l'éteindre.
La lumière était dans mode violet.
J'ai regardé les notifications que j'ai reçues sur mon téléphone.
Je n'arrivais pas à me lever. Cela me semblait très difficile, comme chaque matin.
Je me suis assise sur mon lit avec mes jambes à 90 degrés.
Je me suis levée, fatiguée.
Quand je suis sortie de chez moi, j'avais froid et envie de me recoucher.
J'ai descendu ma valise pour la mettre à la bagagerie du lycée.
J'ai encore oublié.
Je suis montée dans le train pour aller à Shibuya.
Je m'assois sur un siège côté fenêtre et je place mon casque sur mes deux oreilles.
Il y avait un homme brun.
Leurs prénoms étaient plutôt originaux, comme Floji Parker, qui a une cicatrice sur la joue et des tatouages.
Lorsque j'ai vu la dégaine de Levi et Alicia, j'ai craint d'être tombée sur des fous furieux.
J'ai discuté avec différentes personnes, il faisait froid.
La première personne était inintéressante au possible, elle avait le don de m'ennuyer.
Personne ne doit savoir ma vraie identité.
Chapitre 4, l'interview.
Et nous, on va pouvoir deviner ce qu'elle est.
T'as trouvé une émotion?
Oui.
Ok.
Elle va rigoler.
Elle est trop
motivée. Entrez. Bravo! On peut l'applaudir, bravo, merci beaucoup!
Bonjour, nous sommes les élèves de la classe 303 du collège La Collinière. Cette année, nous participons à un projet radio autour de la prise de parole avec notre professeur de français. Nous allons interviewer Emma et Marion, bénévoles de l'association Place aux Jeunes.
En quoi consiste l'association Place aux Jeunes et quel est votre rôle dans cette association?
L'association Place aux Jeunes, elle offre des espaces d'expression pour les jeunes. Donc on a deux actions principales qui sont une performance d'éloquence pour les jeunes de 16 à 25 ans. Donc ils montent sur la scène d'une grande salle nantaise et déclament un sujet qu'ils ont écrit devant un public de plus de 300 personnes. Et on a aussi différents ateliers tout au long de l'année. Donc soit on va dans des collèges pour faire des formations à la prise de parole, soit ça va être dans un lieu ouvert au public. Du coup, là, on propose des formations qui ne sont pas destinées seulement aux jeunes, mais à tous les âges, sur, par exemple, le slam ou l'impro, le podcast. Et pour les rôles, moi, du coup, j'étais bénévole pendant 2 ans et maintenant, je suis à la coordination avec Emma à temps très partiel. Donc, on donne pas, mais on travaille une demi-journée à une journée par semaine sur les activités de Place aux Jeunes.
Comme l'a dit Marion, moi je suis co-coordinatrice dans l'association et moi je suis surtout sur la partie événementielle et communication. J'aime bien aussi créer des petits posts sur les réseaux sociaux pour parler des événements qu'on organise. Et puis je fais des interventions de manière ponctuelle, comme ce qu'on fait là au lycée La Collinière. Et puis on a aussi fait une intervention les dernières semaines pour les Cordées de la Réussite, où on est allé voir des BTS pour leur faire de l'initiation à l'éloquence et prise de parole en public.
Comment avez-vous pris connaissance de cette association et pourquoi avez-vous choisi d'en faire partie ?
Moi, j'ai pris connaissance de l'association il y a maintenant 4 ou 5 ans, quand j'ai suivi un programme entrepreneurial à l'IAE de Nantes. Et un des intervenants, il s'appelait Antoine Payen, il a fondé cette association quelques semaines, quelques mois avant. Et en fait, il m'a fait une intervention comme celle que je vous ai donnée là, sur la prise de parole, et il nous a fait des exercices sur le regard. Et moi, ça m'a un peu bousculée.
C'est gênant, j'ai entendu, c'est normal. On va tous se taper la gêne en même temps, et c'est ça qui est super. La prise de parole en public, c'est gênant au début. Tu fais comme ça.
Et je me suis dit que c'était chouette, la prise de parole. Donc, je me suis renseignée sur l'association et j'ai intégré en tant que bénévole. L'année d'après, j'ai été marraine. Donc, j'ai accompagné un jeune sur plusieurs séances pour qu'il puisse prendre la parole en public devant 300 personnes. Et après, je suis restée bénévole depuis jusqu'à maintenant.
Moi, j'avais vu un post sur Facebook, je crois, il y a un peu plus de 3 ans, pour justement monter sur scène au Stéréolux. Et donc, ça m'intéressait, j'ai postulé, mais j'allais avoir 26 ans, donc je ne pouvais pas participer. Donc, ils m'ont quand même gardé en bénévole. J'ai pu petit à petit m'investir sur un projet de podcast. Et après avoir vu la première performance, je me suis rendu compte de l'intérêt que ça avait, de comment ça pouvait changer les jeunes. Et j'ai eu envie de m'impliquer de plus en plus avec le temps.
Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans cette association et dans le rôle que vous y jouez ?
Moi, ce que j'aime bien, c'est justement le fait qu'on voit une vraie évolution chez les jeunes qu'on suit, puisqu'il y a 4 mois de formation avant la performance et on voit que certains commencent en étant hyper timides, en n'ayant pas confiance en eux. À la fin, ça va peut-être pas les changer complètement, mais en tout cas, ils s'aiment plus, ils ont plus confiance en eux, ils ont fait quelque chose dont ils sont fiers. Globalement, tous les bénévoles, les parrains marraines, les gens qui travaillent pour l'asso sont des gens hyper bienveillants et donc on passe toujours des bons moments ensemble, quoi.
Moi, je dirais c'est à peu près la même chose que Marion. J'aime bien voir cette progression en plusieurs semaines, de voir des jeunes parler sur un sujet qui leur tient vraiment à cœur. Il y a eu déjà des sujets pas faciles sur la maladie, sur les addictions. C'est très poignant, c'est très fort. Et je pense que ça bouscule autant celui qui prend la parole que celui qui la reçoit dans le public. Et ça fait passer beaucoup d'émotions.
Quels sont les effets des interventions de place aux jeunes dans les collèges et lycées ?
Ce que je vois, c'est vraiment que les élèves, en très peu de temps, arrivent à prendre la parole et à oser le faire. Et quand on revient, des fois, dans certains établissements, on se rend compte que ça a provoqué des vraies vocations et des révélations chez certains jeunes qui se sont mis à faire du théâtre, qui se sont inscrits dans certaines activités. Du coup, il y a un bénéfice pour eux dans leur quotidien.
Quand vous étiez plus jeune, comment vous sentiez-vous quand il fallait prendre la parole ?
C'était un sujet, il y a quelques années, c'est encore un sujet qui est compliqué pour moi, la prise de parole. C'est aussi pour ça que je m'investis dans l'asso. Pas en tant que formatrice, du coup, parce que justement, j'ai moi-même du mal. Mais c'était quelque chose qui m'effrayait. J'étais hyper stressée, j'avais envie de vomir avant de parler devant des gens. J'avais besoin de répéter plusieurs fois chez moi. Et c'est des choses qui, quand on grandit, passent un peu et on apprend des petites clé, mais voilà, des fois, il y a des gens qui ont une nature comme ça, et c'est en se forçant un peu à le faire que ça va mieux, et puis on en ressort content.
Un peu comme Marion, j'avais beaucoup de mal avec ça quand j'étais jeune. Moi, c'était pas l'envie de vomir, mais c'était les pleurs, et être toute rouge, les mains moites. Et je me suis vraiment forcée, parce que pas le choix. Et en fait, je me suis rendu compte que en m'entraînant et en prenant des petits conseils à droite, à gauche, bah, ça pouvait vraiment faire la différence. Et puis finalement, j'y ai pris goût. Ça m'a permis de prendre confiance en moi.
Parlez-nous des études que vous avez faites et de votre activité professionnelle. Sont-elles liées à la prise de parole ?
Alors moi, j'ai fait des études. J'ai commencé par une école d'architecture et j'ai aussi fait de la scénographie. Et j'ai fait d'autres études en histoire de l'art et archéologie. J'ai notamment été guide touristique dans des musées. Donc là, il y a pas mal de prise de parole. Mais bon, l'avantage, c'est que moi, je considérais que c'était un peu comme un exposé, même s'il y a une interaction avec les gens. Comme on est avec des petits groupes, finalement, ça devient un peu amical. Donc finalement, la prise de parole était assez simple. Aujourd'hui, moi, je fais plutôt de la coordination de projet, du coup, avec Place aux Jeunes ou d'autres associations.
Et moi, j'ai fait des études en design et j'ai fait du design alimentaire. Et puis finalement, je me suis un peu réorientée les dernières années. Et aujourd'hui, je crée des serious games, donc ce sont des jeux sérieux. De prime abord, il n'y a pas trop de rapport entre la prise de parole et le design. Mais en fait, aujourd'hui, je crée ces jeux-là et je dois être en mesure de les animer et donc donner des règles du jeu et de faire en sorte que les gens interagissent entre eux. Et puis à côté de ça, je donne des formations et je donne des cours dans des écoles. Et donc, je suis forcément censée prendre la parole en public devant des élèves.
Ok, donc là on se concentre. Il faut vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait une grande écoute. Je veux entendre que les numéros. Vous prenez une bonne respiration. On se concentre. Et la première personne qui veut se lancer va dire le numéro 1. Et puis après vous enchaînez. Une deuxième personne, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, etc. À partir de maintenant, c'est quand vous voulez.
1, 2,
3, 4.
Ah, ça devient corsé là. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Ça va être de plus en plus facile.
On recommence. Comment vous organisez-vous pour pratiquer votre métier et être bénévole en même temps ?
Avant de s'engager, il faut savoir combien de temps on peut donner. Donc là, on donne toutes les deux pas mal de temps parce que les missions qu'on a à côté ne nous prennent pas l'équivalent d'un temps plein. Mais si on faisait que du bénévolat, il faudrait se fixer une demi-journée par semaine ou 2 heures par semaine. Ça dépend un peu et c'est pareil pour tous les bénévoles de l'asso. Quand on est salarié à côté, on ne peut pas toujours se libérer dans la semaine, donc on va plutôt se libérer le soir ou le week-end. Les missions comme ça dans les collèges, il faut avoir du temps en journée. Quand c'est des missions plus administratives, par exemple, ça, c'est des choses qu'on peut faire sur son ordinateur à côté. Donc c'est vraiment une organisation personnelle. Quand on est auto-entrepreneur, on peut un peu plus être libre de son emploi du temps.
Quels sont vos projets futurs ?
Projet futur. Il y avait beaucoup d'activités il y a quelques années dans l'association. Là, il y en a un peu moins parce qu'on n'a pas autant de temps à consacrer que par le passé. Mais on aimerait bien qu'il y ait d'autres personnes qui puissent s'engager et trouver des financements, d'autres actions à faire pour qu'on puisse, par exemple, travailler avec des entreprises, travailler avec plus de collèges, faire toujours une performance d'éloquence, mais peut-être plus d'ateliers pour différents publics. Et moi, personnellement, je pense que je vais continuer dans la coordination de projets culturels, peut-être pas à Place aux Jeunes, mais ailleurs, pour la suite.
Dans les projets qu'on est en train d'organiser pour les prochaines semaines, les prochains mois avec Marion, on est en train de recruter des jeunes qui veulent participer au festival L'Humain d'abord. C'est un festival qui aura lieu au château des Ducs de Bretagne en mars ou avril 2025. Et l'idée, c'est qu'ils viennent parler d'un sujet en lien avec la discrimination. Et nous, on va leur faire des petits ateliers pour parler de ce sujet-là de la manière dont ils le souhaitent. Donc, ceux qui veulent le faire façon poésie, façon slam, ou avec, pourquoi pas, des dessins aussi, de l'artistique. Ça fait partie des prochains projets portés par Place aux Jeunes.
Là, on lance le recrutement d'ici la semaine prochaine à la prochaine performance d'éloquence qui aura lieu en juin 2025.
Quels conseils donnez-vous le plus souvent aux jeunes ?
S'il y en a un à retenir, en un mot, c'est oser. C'est oser prendre la parole. C'est difficile quand on est jeune et puis on a tendance à se dire qu'on n'a pas la place de le faire. On n'a pas le droit de donner nos idées parce qu'on n'a pas assez d'expérience. Mais en fait, il faut se faire sa place, il faut oser, il faut se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Un mot à retenir, c'est oser.
Moi, ça va plus être, c'est un peu en lien avec oser, mais de dédramatiser, parce que des fois, avant de prendre la parole, on va se bloquer parce qu'on a trop envie que ce soit justement parfait. Et en fait, c'est normal qu'il y ait des défauts, qu'il y ait des gestes parasites. C'est pas grave. Il y a plein de jeunes qui montent sur scène et qui ont un oubli de texte ou ils sont gênés au début, ils savent pas trouver leur place sur scène. Et c'est pas grave parce que souvent, les petites erreurs que nous on perçoit, le public les perçoit pas. Regardez déjà ce que c'est d'avoir osé justement prendre la parole et se dire que c'est déjà super et que ça sera de mieux en mieux plus on prend la parole justement.
Merci de nous avoir écoutés et merci à Marion et Emma d'avoir répondu à nos questions. C'était les élèves de la classe de 303. Au revoir.
Comment on fait pour vous dire ?
Merci de nous avoir écoutés.
Ah bah voilà, merci. Merci les filles. Plouf, plouf, là-bas. Vous voulez finir, les filles ? Vous voulez troisième ?
Attendez, on joue.
Allez, un chiffre au milieu en une manche. 1.